Bonsoir pour cette nouvelle session des rencontres professionnelles de la manufacture chanson en partenariat avec le CNM et en direct sur Twitch avec Tristan à l'animation, à la modération. Voilà, donc c'est les rencontres professionnelles à manufacture chanson, donc de seconde saison, cinquième épisode, et c'est parti aujourd'hui, nous accueillons Vincent Blaviel, qu'on présentera aujourd'hui, on présentera pour l'instant comme un directeur artistique, mais il a eu plein d'activités dans le secteur musical, donc je ne sais pas si vous connaissez nos habitudes ou nos principes. Donc la séance, c'est à la fois un parcours, un profil et une fonction. Donc on va démarrer évidemment sur le parcours et surtout sur le lien du parcours avec le domaine musical, puisqu'en effet, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Est-ce que ça a été tout petit déjà ?
Tout petit déjà, oui, enfin un petit peu comme nous tous, l'attrait pour la musique dès l'enfance, avec, en ce qui me concerne, ça a été très, très rock'n'roll au début, Elvis Presley, etc. Il y a eu une petite période de Michel Sardou aussi, vers 5 ans.
Aïe, aïe, aïe.
Bon, après, j'assume ça. Voilà, on va vers le rock'n'roll, vers la New Wave un peu plus tard, vers 10, 11 ans, et puis après, ça devient là, pour le coup, vraiment une passion et une envie de faire de la musique.
Ah d'accord, donc il n'y a pas d'apprentissage très jeune, on t'a pas mis au piano.
Non, finalement j'ai commencé la musique en tant que musicien très tard, c'est-à-dire vers 14 ans, par hasard parce que...
Mais tu as fait de la musique quand même, non ?
Ah bah du coup à partir de cet âge-là, d'accord, mais ouais. C'était pas des cours, j'ai jamais pris de cours particulièrement, ouais. Mais comme il m'en manquait beaucoup de notions pour arriver à mes fins, c'est-à-dire star au moins national, voire plus du rock en fait. Donc j'ai appris la guitare et le chant très mal mais très vite, ça va ensemble du coup. Et voilà, et puis j'ai fait des études parallèlement à ça, un peu comme tout généraliste.
Tu peux nous dévoiler un petit peu
mes études,
cette vie de groupe.
Alors oui, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, je pense, puisqu'on là on est en train de parler de musique, j'ai eu cette première vie de groupe de rock, donc on est dans les années 90.
Au lycée et tout ça, ouais.
Lycée, puis un peu plus après. Et donc moi j'étais en Bretagne à ce moment-là, donc à l'époque il y avait beaucoup de cafés-concerts. Beaucoup de concerts, beaucoup de groupes, et donc on jouait beaucoup. Ça, c'était cool.
Et avec des manifestations avec une certaine notoriété, genre bar en trance,
on a fait les bars en trance une fois, je crois, mais c'était une notoriété très locale, et vous me pardonnerez à l'époque, il n'y avait pas Internet, et ça me sauve aujourd'hui, donc vous me permettrez de taire
le nom du groupe.
Le nom du groupe, voilà.
exactement.
Oui, forcément. J'essaie d'être crédible un petit peu. Et puis après, des premières parties, je vous dis ça parce que ça fera écho à ce qu'on se racontera un peu plus tard, des premières parties de groupes assez connus à l'époque, qui étaient des gens pour nous qui étaient un peu des idoles. Et puis des études supérieures dans complètement autre chose que la musique. Et à la fin des études supérieures, il faut faire un stage. Et moi, j'avais une stratégie, c'était d'intégrer l'industrie musicale pour les avoir de l'intérieur et devenir donc toujours un projet star. Très cohérent de star. Gagner énormément d'argent et faire beaucoup de conquêtes féminines en faisant beaucoup de musique. Alors j'ai changé après d'orientation. Mais du coup, c'est comme ça en stage que je rentre chez Sony Music.
D'accord. Et les études, c'était...
Une sub de co. La Rochelle. Rochelle parce que c'était l'avant-dernière du classement national à l'époque, donc à ma portée, enfin plus ou moins. Et les cours n'étaient pas obligatoires. Il y avait une asso de voile et une asso de rock. Et là, ça m'a convaincu. Ils m'ont pris.
C'est parfaitement cohérent, il n'y a pas de
souci. Oui, c'est cohérent.
Il n'y a pas de souci. Et donc, tu es arrivé à concilier la musique, le groupe et les études ?
Non, je faisais que le groupe. Et pour passer en troisième année, j'ai été convoqué, j'ai retrouvé récemment d'ailleurs mes bulletins, j'ai été convoqué chez le président de l'école, qu'on voyait qu'une fois par an à la base, et qui m'a dit, vous êtes bien conscient que vos résultats ne permettent pas de passer en dernière année, mais ma femme est fan de votre album, on a besoin de gens comme vous, vous passez. C'était quelqu'un que comme on n'en fait plus.
Qui avait beaucoup, la femme avait beaucoup de goût. Quoi.
Exactement.
D'accord. Et donc, vous aviez fait un album hein.
J'avais commis deux albums.
Signé ou...
Non. Alors, justement, parce que mon parcours commence donc, vous l'identifierez, par l'autoproduction.
Voilà.
Aussi bien en concert que là, c'était vraiment le système D. Pendant peut-être 10 ans.
Ok. Et
8 ans d'auto. Enfin, de.
Et c'est des albums qui, à part la femme du directeur.
Assez peu de réunions. C'était alors à l'époque, il y avait effectivement donc pas Internet. Les maisons de disques, quand on était en Bretagne, moi je pensais que c'était comme dans le film Les Doors, qu'il y avait un DA qui venait dans des bars, dire toi je te signe, etc. En fait, pas du tout. Je l'ai appris après. Donc on pourrait être encore en train d'y jouer. Là, on serait toujours là-bas. Donc j'avais aucune notion, et c'est aussi pour ça peut-être que vous êtes là, parce que vous avez cette intelligence de chercher des informations, aucune notion de ce que peut être un éditeur, un manager, une maison de disques, aucune idée. Nous on faisait du rock et on mal et fort, et on continuait comme ça. Ça nous suffisait, et on avait nos fans. Donc à l'époque, je parle en anciens disques, on vendait peut-être, on avait pour un niveau de notoriété, peut-être, je sais pas, 2000 disques, entre 2 et 5000 disques. Bon, ce qui aujourd'hui n'est pas si mal, mais ce qui, il y a 20 ans, était nul.
Pour un autoproduit, c'était pas mal.
Ouais. Et bon, à l'époque...
La Bretagne est un bon territoire.
Exactement, absolument.
Et tu avais déjà une stratégie de...
Aucune.
Sur les maisons de disques, sur l'industrie?
Non, aucune, non. Vraiment.
En faisant sub de coup un peu, non?
Non, franchement, non. D'abord, c'était un milieu... quand on est provincial et peut-être un peu con aussi, enfin pas assez malin pour aller chercher les bonnes informations au bon endroit, non, on le faisait vraiment à l'instinct.
D'accord.
Vraiment. Et tout est si bien que j'ai été déniaisé, entre guillemets, de ça, voilà, par ce premier stage.
Mais tu as orienté ta recherche de stage sur ce type de boîte, quand même.
Oui, parce qu'à l'école, les professeurs, les gens de l'accueil et mes potes me disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Et une copine m'a dit, moi je connais un mec qui a fait un stage chez Sony, j'ai des contacts, vas-y.
Ok, vas-y, ouais. Ouais. Et ça a marché?
Alors oui, pour être pris en stage, ça a marché. Ouais, j'ai été pris en stage parce que je suis arrivé avec mes disques, moi.
Ouais.
Fier de moi. Et donc ça fait beaucoup rire.
En stage et vous me signez, c'est ça?
Ouais, moi je me suis dit, prenez-moi en stage et puis même pas vous me signez, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils m'ont juste pris en stage. Donc j'étais au commercial. Alors ça, c'est important aussi pour la suite de ce qu'on va se raconter, parce que c'est une première découverte du milieu professionnel industrie du disque. Le commercial, plus exactement la promotion commerciale. Ça n'existe plus tellement aujourd'hui dans cette forme-là, puisqu'on parle d'aller... Enfin, il y avait des gens qui allaient dans les magasins, qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des streamers. Pour inventer des opérations commerciales, des PLV, etc. Mais, l'air de rien, pendant cette année, ça a duré un an, parce qu'après, ça s'est transformé en CDD. C'était Philippe Bonin, je le dis comme ça parce que c'est le premier qui m'a fait confiance finalement. Philippe Bonin, qui était le patron de la promotion commerciale,
très
que
connu,
tu connais certainement.
Sur cette tâche, ouais.
Et donc on voyait absolument tous les projets de Sony, nationaux et internationaux, passer. Donc j'ai bossé, alors je ne les ai pas tous vus, mais que ce soit sur Oasis, Korn, Michael Jackson, George Michael, cette époque-là, j'ai vu ces mecs-là passer en promo, et j'ai bossé sur ces albums-là, donc comme jeune musicien un peu qui cherche à savoir, à comprendre, être proche de ça, c'est cool, c'est un peu impressionnant aussi. Mais c'est bizarre, c'est intéressant. Donc première expérience, stage,
positive.
Commercial. Positive.
Puisqu'elle débouche sur un CDD, si j'ai bien compris.
Elle débouche sur un CDD, mais qui par définition est D. Donc à la fin du D, on m'a dit, on peut pas renouveler le poste, c'était super, merci. Et là j'ai dit, mais c'est pas grave, je vais faire ma carrière. J'ai fait ma carrière pendant 6 mois.
Et le CDD, c'est un an, c'était combien?
Non, c'était 3 mois, 6 mois peut-être.
Ouais,
donc ça fait un an stage plus CDD, quoi.
Ouais, ok.
Et puis là, j'ai fait un autre disque pour Alors c'est important parce que là, je rigole en disant tel disque. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Là, j'arrive sur l'artistique déjà, même si c'est pas encore tout de suite le sujet. Toutes les erreurs possibles, je crois, je les ai faites sur mes disques. Donc, du coup, ils sont pas bien, mais ça m'a préparé à plein de choses et ça m'a beaucoup aidé, l'air de rien.
Par la suite.
Après. La suite, c'est que on me rappelle, parce que quand vous êtes stagiaire...
Donc en fait, tu as fait ton apprentissage dès l'âge de 14 ans, quelque part, apprenti, quoi.
Oui, dès l'âge de 14 ans, j'ai voulu, parce que moi, tout de suite, j'ai voulu écrire des tubes interplanétaires. J'ai pas toujours réussi. Encore que peut-être qu'après ma mort, on découvrira des choses, mais... voulu... c'est-à-dire qu'au bout d'un an de guitare, je faisais un concert.
D'accord.
Ce qui était ridicule.
Ouais.
Mais je ne regrette pas.
Ouais.
C'était bien de le faire. Il fallait vraiment avoir des potes devant, quoi. Mais c'est ça que je voulais tout de suite, quoi. On revient sur le parcours professionnel. Ouais. Sony, ou plutôt Epic, un label de Sony, me rappelle. Je ne citerai pas les noms, parce que même si c'est des gens que...
Combien de temps après ?
6 mois après.
Ah ouais, donc
un an après, peut-être. Ouais. Le temps de faire un disque et se rendre compte qu'il ne marche pas.
D'accord.
Et je fais un entretien d'embauche, là, pour du vrai, un vrai travail. Assistant marketing. Bon, moi j'ai fait du marketing dans. Enfin, mais.
Mais c'est de cours. Hein.
Ouais. Les élèves de ma promo avaient fait des études de marketing. Et donc j'arrive à l'entretien d'embauche, et je vous promets que c'est vrai. J'en ai reparlé avec cette personne-là qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas vraiment le citer parce que. Mais il se reconnaîtra. L'entretien, ça a été « Ouais, je te connais parce que tu étais en stage et tout, c'est cool, j'ai besoin d'un assistant, et puis on a deux autres chefs de projet, ils ont besoin d'un assistant. Est-ce que tu parles anglais ? Ouais. Est-ce que tu sais rouler des pets ? Ouais. T'es pris. » C'était comme ça l'entretien. J'ai été pris. Voilà. Alors c'était à la fois super parce que ces gens m'ont donné vraiment tout ce qu'il fallait, m'aider, etc. J'ai eu des expériences, on n'a pas le temps de faire des anecdotes et tout, mais d'artistes internationaux extrêmement connus, extrêmement drogués, qu'il fallait gérer n'importe comment. C'est là que je me suis rendu compte, mais c'est pas vrai, j'ai aussi armoire que ça. Ouais. Et donc c'était très drôle par certains côtés. J'ai côtoyé à ce moment-là Obispo, NTM, enfin des trucs. Finlay Kwe, Oasis, justement, qui revenait là. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, donc dans le bon sens du terme. Et aussi, c'est un travail qui faisait appel à l'exact inverse de ce que je suis, c'est-à-dire organiser, carrer, être le cerveau des chefs de projet pour que tout se passe bien. Et donc j'ai fait des bourdes, mais de trucs, mais de ouf, vraiment, je me rappelle. Assez drôle, encore une fois, je sais pas si on a le temps, mais... Voilà, avec tout le board de Sony qui débarque à 40 personnes avec Rulo Iglesias, machin, des trucs hyper stratégiques. Et le mec qui doit prendre les limousines le dimanche soir et réserver l'hôtel, c'est moi. Et non, en fait. Voilà. Par exemple, il y a ça.
Et alors, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Rulo ?
Rulo, il a dit qu'il n'était pas content. Et mon patron de l'époque, qui était Christophe Lamenière, dont on va reparler parce que ça a été quelqu'un d'important dans mon parcours, m'a convoqué dans son bureau. Et moi, je crois qu'il allait me taper, parce qu'il était fort, en plus. Moi, j'avais peur. Et je me suis dit, bon, je suis viré et tout. Et il m'a dit, regarde-moi dans les yeux. Il m'a dit, plus jamais ça. J'ai dit, plus jamais ça.
Ça va, la punition est assez douce.
C'était très humiliant et très efficace. Ça m'a bien passé l'envie de... Voilà. Donc ça, c'est épique. Assistant marketing.
D'accord.
Je continue.
C'est un peu la régie du...
Ouais, c'est ça. C'est ça.
T'es un peu l'équipe, quoi.
Ouais, grosso modo. Cette personne, Christophe Lamenière, qui était le patron d'Epic, s'en va pour monter un label qui s'appelle Zomba. C'est un label international, c'était, mais qui n'avait pas d'antenne propre en France. Donc il est mandaté pour monter et diriger ce label Zomba en France. Donc il quitte Sony pour ça. Moi, je reste...
Chez Epic.
Chez Epic, une nouvelle équipe arrive. Et puis moi, je suis très malheureux. Quoi.
Peut-être expliquer que Epic, c'est un label dit intégré, je dirais.
Ah oui, c'est un label qui fait partie de Sony Music, comme Columbia, ce sont des marques, en fait. Hein,
ouais, ça,
on les éteint, on les rallume. Bon, après, c'est des gens, des équipes qui sont assez... Pardon. On m'entend toujours ou j'ai explosé le micro ?
Ouais.
Qui sont assez interchangeables. Et bon, voilà. Donc, une nouvelle équipe arrive. Moi, le métier, comme je ne suis pas bon dedans, je ne m'éclate pas. Et cette personne, donc Christophe Lamenière, m'appelle, c'est le patron de Zomba, 6 mois après son départ, et en me disant, est-ce que tu veux être directeur artistique dans mon label ?
Alors.
Bon, on arrive, on commence. Alors, directeur artistique, pour moi, c'est une porte fermée avec marqué directeur artistique, et deux mecs qui ne répondent pas quand on les appelle, et qui font la pluie et le beau temps, et qui, pensais-je encore, vont dans les bars en Bretagne dire, je te signe. Et en fait, non. Et donc je lui dis, je sais pas, il faut faire quoi ? Et il m'a dit, il faut sortir le soir, écouter de la musique, et surtout rien signer.
Tout ça, tu savais ?
Je savais pas, rien signer.
Non, mais les trois fonctions, c'était bon.
Alors je demande si c'est payé, il me dit que oui, et il dit, c'est pour quand ? Il dit, si t'es dispo lundi, tu commences lundi. Donc j'ai dit, d'accord, j'ai appelé ma mère pour dire, je vais être directeur artistique. Et après, j'ai fait ma lettre de démission. Et le lundi, je suis arrivé. Alors, Christophe Lemire, c'est quelqu'un qui a été directeur artistique avant et avec beaucoup de succès. On va pas faire le mais voilà. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre grave auprès de Christophe. Et lundi, j'arrive. Donc, j'ai un bureau qui est plus grand que mon appart, avec une plante verte, avec une chaîne IFI de ouf, une terrasse. Et je vais le voir. Et je dis, qu'est-ce que je fais ? Il me dit, je sais pas. Viens me voir une fois par an avec le truc qu'il faut qu'on signe. Et c'est ça que j'ai fait. Et ça a été une période super parce que Zomba c'était un petit label qui avait la chance d'avoir beaucoup de moyens dans le sens où dans le catalogue international il m'avait dit qu'il y avait une jeune chanteuse qui sortait de Disney, qu'on verra, c'était Britney Spears. Un boys band, voilà, mais bon, c'est pas mal quand même, mais dedans, il y avait Justin Timberlake, il y avait R. Kelly, il y avait... Donc c'était, la vie était... ça allait, quoi. Et moi, j'avais tout... pas beaucoup de pression, et effectivement, signé très peu. Mais avec, du coup, il y avait tout un label, que quand on signe deux trucs par an, bah, il y a tout un label qui est sur deux trucs par an, et bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Le premier album que j'ai eu la chance de réaliser, c'est Kyo. Kyo, je sais pas si vous vous rappelez, c'est Le Chemin. Donc le premier album que je réalise, ça fait à peu près 1 million de ventes. Donc moi, je me dis, mais je suis hyper fort, en fait. C'est, enfin, j'étais fait de fait. Je signe Benabar, 6 mois après, qui part bien aussi assez vite, parce que des fois, c'est long. Donc tout est, voilà, c'est cool et ça. Bon, évidemment, ça tient pas à moi, ça tient d'abord au talent des artistes, au talent de tout le label, et puis au fait qu'on est dans cette situation où on a le temps de se concentrer sur des projets, et de, en termes de promo, en termes de marketing, d'insister, et de dire, voilà. On a fait aussi des trucs qui n'ont pas marché, mais je le dis
bien
pas
sûr,
parce que c'est plus... voilà, je reste sur la légende.
On les oublie. Et donc là, tu organises forcément un peu ton activité.
Je découvre ce métier, bizarre.
C'est quoi ta conception première donc, de ce métier et qu'est-ce que tu entends faire puisqu'on te dit, fais ce que tu veux.
C'est un vrai truc, c'est très bizarre. À l'époque, encore une fois, Internet, c'était un chien. Donc moi, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis un carton avec des CD et des cassettes qu'on avait reçues. Et bah, j'ai tout écouté en mettant des notes et puis en faisant des rendez-vous et en rencontrant plein de gens. C'était bizarre d'être... parce que là, le projet de star international se mettait un peu sur le côté quand même. Et c'est un peu bizarre, en tant qu'artiste qui se pense créateur, etc., d'avoir un avis, tout d'un coup, sur des propositions artistiques.
Autres, ouais.
C'est bizarre. De se confronter aussi à des écritures qui sont peut-être presque inhibantes, quelquefois, parce qu'on prend des bons coups de cœur artistiques. Et voilà, donc il faut savoir se mettre un petit peu sur le côté. Ça a été une période un peu bizarre. J'ai compris plus tard qu'on pouvait, en fait, tout ça n'était pas vraiment... Il n'y a pas... Moi, aujourd'hui, on en reviendra peut-être à la fin, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de faire de la musique. Je fais plein de métiers différents aujourd'hui. Plein. Et on peut faire ça, faire plein de trucs à la fois. Bon, il se trouve que là, c'était un métier salarié qu'il fallait apprendre et avec des responsabilités, et puis on vous paye pour ça.
Donc,
et du succès qui... Voilà, tu as raison.
La réussite. Ouais.
Exactement, la réussite, ça donne envie de continuer.
Pour ton patron aussi.
Ouais, et puis pour soi aussi. Moi, au bout de 2 ans, je suis au Victoire, on me voit filmer au Victoire de la musique, machin. Ouais. C'est cool aussi. Bon.
Et Kyo, c'était vraiment la première signature.
C'était la première. Alors, c'est Christophe Laminière qui les avait signés. En fait, qui les avait signés chez Epic d'abord. Mais je soupçonne Christophe de m'avoir proposé ce poste parce qu'un jour, alors que j'avais peur de lui et peur de à peu près tout, et moi je suis quelqu'un de très. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis rentré dans le bureau donc, du patron alors que moi j'étais assistant marketing parce qu'il entendait, il écoutait des maquettes, guitare-voix un peu pourrave. Et je suis rentré, encore une fois, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, hey, le refrain, il est vraiment mortel et ce que tu écoutes depuis tout à l'heure, c'est super. Et c'était des maquettes de Kyo. Bon, on en est resté là, mais peut-être que ça a résonné un peu dans sa tête.
Ah bah j'imagine. Ouais.
Il les a signés chez Epic, quand il est parti, il les a amenés avec lui.
D'accord.
Il y a eu le premier album qui a été fait où j'étais pas là, qui n'a pas marché. Et celui d'après, Le Chemin, donc boum, 7 singles sur Énergie.
D'accord. Donc quelque part, c'est aussi lui qui les a signés.
Ah, c'est surtout lui qui les a signés.
Okay. Et toi, tu t'es occupé de l'enregistrement.
Et je me suis occupé de l'enregistrement, mais pas que ça, je me suis aussi...
C'était nouveau pour toi.
C'était tout nouveau pour moi, mais là où c'est un peu important, si on parle de direction artistique, c'est que, et ça par contre, c'est effectivement, entre guillemets, moi, je les ai fait écrire des chansons pendant 2 ans. Ils ont fait 80 chansons. Ça aussi, c'est important parce que... Enfin, c'est important. Il ne faut pas faire tout le temps 80 chansons. Mais je pense que je le faisais parce que j'avais peur. Je me disais qu'il fallait que ce soit vachement bien. Puis c'était ma première expérience. Alors j'avais peur d'arriver en disant « Ouais, c'est bon, l'album, il est fait. » Je voulais que ce soit mieux. Et surtout, ce sont des gens qui ont beaucoup de talent, Kyo. Et je sentais, on sentait qu'on pouvait avoir mieux. Je me disais « Ouais, je sais pas. » Et donc, à la fin, je pense qu'ils me détestaient. C'est des copains aujourd'hui. Je pense qu'ils me détestaient. Mais dans les 80 chansons, il y en a eu 12 qui ont été sur l'album, et je vous dis, il y a eu 7 singles sur Énergie. On demandait aux radios d'arrêter de passer des singles, parce qu'on n'arrivait pas à passer sur l'album d'après. Et ça a été des tournées de Zénith immédiates, c'est 4 ou 5 victoires de la musique, 1 million d'albums, enfin, ça a été ouf. Donc qui, pourquoi, mais j'en sais rien, mais je pense que quand on fait de la pop et qu'on a cette capacité à faire des chansons, il ne faut pas faire 12 chansons et on fait un album. Il faut faire des chansons tout le temps, et des fois on se dit, tiens, il y en a 12. Et voilà, ça je pense que c'était important. J'ai perdu le fil.
Et c'est une règle que tu as suivie toujours ?
Bah, c'est une règle, pas vraie, y a pas, je pense qu'il y a justement, il n'y a pas de règle, mais il y a des tendances à garder en tête, ouais. Des petits enseignements comme ça. C'est jamais transposable à 100% d'un projet à l'autre.
Sûr, hein.
Mais il y a, ouais, moi un mec qui fait 12 chansons et qui dirige un album, ça m'énerve.
Et donc, pour commencer à circonscrire ce travail de directeur artistique, tu les suis en studio, j'imagine ?
Alors, oui, puisque...
Tu dirigeais les séances ou non, tu choisissais les studios, tu choisissais les musiciens... Tu t'es occupé de tout ça, vrai ?
Tout ça, à chaque fois.
À chaque fois.
J'ai dû faire un peu... Je sais pas, j'ai pas compté, mais peut-être 150 albums en tout.
Non, mais là, au début, dès le début...
Dès le début, et j'ai envie de dire surtout au début, parce que chez Zomba, j'étais à l'artistique tout seul.
D'accord.
Ce qui est, c'est super parce que du coup, tu fais tout. Mmh. Mais à une échelle et à un rythme cool. Parce qu'après, j'ai eu des périodes où je faisais 11 albums en même temps, ou 9.
Oui,
là, c'était 2.
Là, c'est pas le cas, ouais.
2 et encore, des fois 1. Donc c'est super, tu peux. Alors après, je sais pas si. Je suis pas sûr que certains d'entre vous se destinent ou aient envie d'être directeur artistique particulièrement, peut-être plus artiste ou je sais pas, mais au niveau du directeur artistique, il y a un truc qui est pas facile, c'est c'est de trouver sa place dans l'enregistrement. Ton rôle, c'est trouver et signer des artistes qui vont convenir aux aspirations et aux compétences du label, c'est-à-dire c'est un mariage, c'est pas juste « Ah, le mec, il est super, faut le faire », c'est qu'est-ce qu'on en fait aussi après, il faut intégrer ça. Donc marier un label et un artiste ou des artistes, et après, c'est utiliser tous les moyens nécessaires pour livrer au label, le label dont vous faites partie, c'est votre équipe, livrer au label un album qui va être en adéquation avec eux, ce qu'ils ont envie de défendre et ce qu'ils savent défendre. Et préalablement à ça, un album dont l'artiste va être fier. Parce que c'est pas vous, c'est lui qui va le défendre, c'est sa gueule et son nom sur la pochette. Et il doit être heureux. C'est son album parce que c'est l'artiste et c'est l'album du label parce que c'est eux qui produisent. Donc il faut être là-dedans, dans ce truc de toujours essayer de faire en sorte que ça marche entre deux entités.
Donc le label et l'artiste.
Le label et l'artiste, parce que c'est ça la condition du succès. Si l'artiste est très content de son album et que tout le monde s'en fout, c'est raté. Si le label dit c'est exactement ce qu'on voulait et que l'artiste est dégoûté de son disque, c'est raté. Voilà. Donc il faut vraiment faire ça. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Quelquefois, il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets, parce que les chansons sont là, parce que c'est un groupe, c'est déjà constitué, ils savent avec qui ils veulent bosser, etc. Ça, c'est une extrême. Ou quelquefois, dans l'urbain, les mecs arrivent, ils ont déjà des l'album est limite déjà enregistré, etc. Ou alors, des fois, il y a des mecs avec une guitare, une chanson, il n'y a rien.
Ouais.
Peu importe, votre rôle, c'est de dire à la fin, écoute, ça défonce, et tout le monde est content. C'est ça, votre rôle. Donc, c'est jamais le même métier, en fonction des artistes sur qui vous tombez. Et il y a beaucoup de psychiatrie aussi. Quand même.
Bah ouais. Et ton rôle se cantonne aux aspects sonores ou aussi à l'enrobage, le marketing, etc. Ou tu l'es limité en tant que directeur artistique aux aspects...
Alors, je dirais que... Alors, il y a une notion de directeur artistique au sens où moi, je vous le raconte, qui est une histoire qui, à mon avis, au sens major du terme, n'est plus exactement le même métier aujourd'hui. Il est en train d'évoluer et c'est pour ça que moi, j'y suis plus. Parce que je pense que c'est différent aujourd'hui. Mais jusqu'ici, on peut dire, la responsabilité, c'était vraiment le contenu artistique jusqu'à la fin de l'album qu'on écoute. Ça, c'est ta responsabilité personnelle. Mm-hmm. Moi, je le prends comme ça. Mais faire son truc dans son coin et livrer ça à la fin, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Donc il faut intégrer les gens du marketing, les gens de la promo, au maximum et dès que possible et même dès les maquettes
continuellement
d'une part pour que eux s'imprègnent mais aussi pour que toi dans ta manière de guider la chose tu comprennes les réalités de chacun et tu sentes les réactions, tu as ta conviction, tu as une matière brute qui est l'artiste et si tu t'intéresses à cet artiste c'est parce que tu aimes ce qu'il fait mais par contre il faut vraiment intégrer ce qui va se passer après parce que sinon on fait un album dans la cave et puis merci. Il faut penser au marketing, à la promo, aux médias. Et c'est pas genre, ah, mais il faut faire une chanson pour telle radio. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Mais si t'as envie de jouer le jeu, oui, il faut penser à ça, il faut... Voilà.
D'accord. Et donc, tu interviens beaucoup, justement, sur le processus créatif ou...
Alors, plutôt, oui. Enfin, comme...
Je te parle à l'époque. Hein.
Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait deux types, entre guillemets, de directeurs artistiques dans le disque. Il y a des musiciens, il y en a assez peu, et des musicophiles. Moi, j'étais plus musicien que musicophile. C'est-à-dire que j'y connais rien, en fait, en musique. Mais il y a des gens qui sont passionnés de musique, sans forcément savoir en jouer, etc. C'est deux approches différentes qui fonctionnent toutes les deux, mais qui sont différentes. Donc moi, j'étais assez, assez interventionniste, mais pas, mais pas gratuitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Oh, c'était pas un truc d'ego du tout. Mais c'est vrai que c'était un plaisir de se mettre au service d'eux, donc c'est de trouver un réal. À l'époque, moi, je faisais pas de réalisation, c'était pas ma responsabilité, mais le réal, c'est quelqu'un qui me regarde moi aussi, en disant bah, moi je propose ça, qu'est-ce que t'en penses, et donc vous pilotez un petit peu le truc, un peu comme un producteur de cinéma qui parle à un réalisateur et à des acteurs, enfin c'est pas la même chose.
Mais, comment tu délimites justement le rôle du directeur artistique et celui du réalisateur?
Encore une fois, moi j'ai jamais fait deux fois le même projet, donc à chaque fois c'était différent. Mais grosso modo, le directeur artistique, techniquement, représente le producteur, donc celui qui paye. Donc à un moment donné, voilà. Mais c'est la main de l'artiste. Mais c'est le réalisateur qui réalise. Alors c'est un truc, pour moi, c'est un truc à trois tripartites. D'accord. Avec l'artiste qui décide à un moment donné, parce qu'il dit allez vous faire foutre, moi je fais pas ça, il a raison. Enfin, j'ai jamais réussi à forcer, j'ai essayé, mais à forcer des gens à chanter ce qu'ils n'avaient pas envie. Et en même temps, si le producteur n'est pas d'accord, et ça c'est votre voix, vous ne pouvez pas vous retrouver otage d'une situation que vous payez, et vous avez une responsabilité, et voilà. Et si le réalisateur n'est pas content, lui, à la rigueur, il s'en va. Mais c'est quand même pas souhaitable, c'est un échec.
Ouais, ouais.
Et voilà. Après, moi je suis rarement, pour ne pas dire jamais, peut-être trois fois, arrivé à des situations de blocage. Des situations de blocage, il y en a eu, mais moi je considérais mon métier comme étant... justement l'entité qui débloque, qui fait en sorte que ça se passe. Ça, mille fois, j'ai fait ça. Des conflits...
Donc, il peut y avoir un blocage vis-à-vis de la direction, par exemple.
Vis-à-vis de la direction, ou entre les réalisateurs et les artistes, entre « je veux plus voir ce con », etc. Ça, j'ai eu ça mille fois. Des groupes qui splittent au bout de deux ans d'enregistrement, ça, j'ai eu aussi. Je suis désolé, hein, on split. Tu vas te faire engueuler, je suis désolé. Voilà, vous avez mis 100 000 balles dehors. J'ai... Bon. Bon, je m'en suis sorti à chaque fois, je crois. Avec des subterfuges que je ne livre pas, parce que peut-être que j'écrirai un livre un jour, mais avec des anecdotes marrantes, bien sûr, je vous laisse deviner. Voilà, sur la... Et juste pour finir sur le parcours...
On ne peut pas deviner, quand même. Désolé.
Non, mais je peux pas en sortir.
Tu en lâches un petit peu
ridicule,
plus.
Quand on sera tout à l'heure en train de deviser en off, je vous dirai plus de choses. Et pour les internautes, bah, on fera un truc payant.
Oui, oui, Donc, ça c'est tes premières expériences, donc tu vas évoluer, et comment ça évolue justement cette carrière ?
Eh bien, ça évolue malgré moi, on est dans un secteur, dans une industrie qui va être, comme vous vous rappelez peut-être, extrêmement secouée. Moi j'ai entendu chez Sony des hauts responsables dire, et je ne jette pas la pierre parce qu'on a tous dit... Mais le MP3, ça ne marchera jamais, ouais, etc. Évidemment, j'ai entendu ça. J'ai entendu plein d'autres trucs. Encore une fois, ce serait trop facile de critiquer ça, mais c'est comme ça. Ça a tout dézingué. On s'est retrouvé avec un produit disponible gratuitement sur Internet à volonté. Peu d'industries, enfin aucune industrie à l'époque n'avait jamais vécu ça. Je ne suis pas sûr, alors je n'ai pas les chiffres, mais la dégringolade industrielle, le catastrophe industrielle a été... La vitesse, en tout cas, a été sans précédent, je crois. Donc, fusion, Jean Viré, etc., machin. Zomba est vendu à BMG, dont nous, enfin nous, pas moi, mais les dirigeants de Zomba prennent la tête de BMG, finalement, en France. Donc moi, je me retrouve DA chez BMG. Et puis Sony rachète BMG.
Mais toujours sur ce label.
Toujours avec les mêmes personnes, mais d'accord. Tout change de nom, ça s'appelle Jive, etc. Je vous fais grâce des...
Zomba devient Jive.
Zomba devient Jive, qui était l'un des... C'était le plus gros label dans Zomba, qui était déjà une holding. Et puis BMG lui-même racheté par Sony, donc c'est Sony BMG. Puis finalement, c'est trop long, alors ça s'appelle Sony Music tout court. Puis bon, là, Jive, machin, Jive Epic. Alors je me retrouve comme chez Jive Epic, qui est Jive, ma nouvelle maison, Epic, là d'où je viens, c'est assez bizarre. Et donc je recroise plein d'artistes, parce qu'il y a des artistes que j'ai signés, mais il y a des artistes qu'on récupère par ce jeu de fusion.
Ouais.
Donc plein de... qui sont aujourd'hui des potes. Hein, je pense à TT, qui j'étais encore il y a 2-3 jours, qui se travaille aujourd'hui. Je pense à plein. Benabar est toujours là, j'ai bossé non-stop pendant plus de 20 ans avec lui. Enfin, c'est bien parce que je ne suis jamais parti, et donc il y a une grosse fidélité. Il y a des artistes à qui j'ai... Voilà, travailler 20 ans. Et il y a un moment donné où c'est bien d'arrêter, parce qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Mais c'est intéressant quand même de passer le cap des 4-5 albums ensemble et de voyager dans un projet qui n'est pas le
vôtre. Les artistes n'ont pas les carrières aussi longues de toute façon.
Non, surtout aujourd'hui.
Déjà, je pense.
Ouais. Même déjà. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, j'estime que c'est une grande chance d'avoir pu faire ça. De continuer de suivre des gens sur le long terme et d'avoir des histoires humaines, parce que voilà, c'est quand même ça aussi la musique, je pense, enfin pour moi. C'est abstrait, on ne sait pas trop, on aime bien, on n'aime pas. À la fin, pour moi, c'est un truc, surtout en studio, la prise, elle est bonne, elle n'est pas bonne, la chanson, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Qui sait ça avant que le public ait tranché? Et même après, finalement.
Nobody knows, ouais.
Nobody knows. Et donc, je finis, je ne suis pas mort, chez Sony Music. Là où tout avait commencé. Absolument. Entre guillemets.
Mais oui, pas sous un label, donc chez Sony.
Sony, si, c'était un label, mais qui a changé plusieurs fois de nom. À la fin, c'était RCA.
Ah, d'accord.
Avec des avec une nouvelle direction, avec des machins, avec des gens avec qui j'ai travaillé 20 ans, mais aussi des nouveaux, des machins. Il y a eu beaucoup de. Moi, j'ai traversé finalement, je crois, deux fusions, quatre plans sociaux. Quand j'ai commencé, Sony, ça devait représenter, je dis un peu n'importe quoi sur les chiffres, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Je sais pas, moi, il devait y avoir, si on compte tout Sony Music et tout ce qu'a représenté à la fin Sony, c'est-à-dire en intégrant BMG, en intégrant tout ça, je sais pas, peut-être 800 personnes, et aujourd'hui, ils sont 180. Donc, ça sur 10 ans. Donc, j'ai vu partir beaucoup de gens. Et puis, un jour, c'était moi. voilà, donc ça, tout ça, c'est... a été très bien. J'ai eu la chance de faire du coup un truc assez généraliste en major. Zomba, c'était de l'indépendant. Le début de mon histoire, c'était de l'autoprod.
C'était de l'indépendant.
Luxueux. Ouais.
Luxueux.
Tranquille.
Ouais. Gros indépendant.
Gros indépendant. Mais quand même, j'aime bien dire ça. Ouais. Et donc BMG Sony major. Et donc j'ai fait des trucs super généralistes. Que ce soit du rap, rap un peu variété, des trucs plus hardcore, du rock à l'époque, du n'importe quoi, du reggae, beaucoup de chansons, de l'électro, des licences, des contrats d'artistes, de tout. Vraiment beaucoup de choses. Et donc, culturellement et dans les affinités artistiques, ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Ça m'a un peu inhibé aussi sur certains trucs en côtoyant des gens qui étaient très très forts, en me disant « Merde, putain, waouh !» Mais du coup, voilà. Et j'ai continué, peut-être que c'était une des questions, j'ai continué un peu en sous-marin, alors pas vraiment à faire de la musique parce que j'avais pas le temps, parce que c'est un boulot qui vous prend quand même, l'air de rien, on dit que c'est un truc de branleur et tout, c'est vrai. Mais il faut être branleur pas mal, enfin beaucoup, quand même. Et donc je faisais assez peu de musique, mais j'ai eu la chance d'avoir des artistes, quand on a des relations un peu sur la durée, qui m'ont proposé de coécrire ou de co-composer avec eux, ce qui était délicat pour moi, parce qu'en tant que DA, c'est difficile de dire « j'ai une idée, on va faire une chanson à moi, ça va être top ». Mais quand on vraiment me le demandait, que c'était dans un esprit de sauver une chanson qu'on n'arrivait pas finalement, il m'est arrivé modestement de participer, c'est ça. Et donc voilà, ça m'a tenu un petit peu là-dedans. Certains de nos artistes ont fait une ou deux fois des musiques de films auxquelles j'ai pu participer, et dans la prod et dans la compo. Je les en remercie encore. Et donc j'ai toujours eu ce petit contact. Il y a des chansons finalement, entre guillemets, de moi, qui sont passées à la radio, l'air de rien. Je signais pas toujours, parce que encore une fois, c'était délicat. Mais c'était pas une question de thune ou quoi. C'était que pour moi, j'étais vachement content. Ça me gardait dans cette idée d'être aussi créatif, mm-hmm. et pas que contemplatif et industriel, si tu veux. Oui.
Je ne sais pas si les deux termes vont bien.
Non, c'est bizarre. Ouais. J'aime bien les paradoxes. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Et voilà. Et donc un jour, pour finir la boucle, on m'a dit, tiens, et si tu te cassais? Et je dis, ah ouais, tiens, ouais. Non, j'avais fait un petit peu le tour. Le métier, donc j'en arrive au ce que je disais tout à l'heure, le métier de directeur artistique, ça veut tout et rien dire. Mais dans la musique et dans les majors, a beaucoup changé. Je pense que les majors ne produisent, enfin en tout cas produisent beaucoup moins de musique qu'à l'époque où j'ai commencé, parce que pour plusieurs raisons, mais notamment une raison technologique, il y a 15 ans, il y a 20 ans, enregistrer un album sans maison de disque, c'était quasiment impossible. C'était quasiment impossible. Parce qu'il fallait quand même de l'argent, il fallait vraiment des studios. Aujourd'hui, on peut faire un album dans son appartement sans problème. Quitte à payer un mix, un machin, etc. Technologiquement, techniquement, on peut faire un album tout seul. À l'époque, pour parler à un public, il fallait des clips à la télé, il fallait de la presse, il fallait passer en radio, il fallait faire des concerts tout le temps. Aujourd'hui, Alors, je ne dis pas que c'est facile, c'est même, je pense,
plus difficile.
Une tromperie,
ouais.
Mais on pense en tout cas qu'il est, pour ne pas dire facile, possible de parler directement à un auditoire sans maison de disque. Techniquement, c'est vrai que c'est possible, dans l'absolu. Et donc, les gens le font. Et donc, les maisons de disques, et en plus, le mieux, c'est que quand vous faites des projets vous-même et que vous les mettez en ligne vous-même, c'est marqué dessus jour après jour si ça marche ou pas. On sait à quel point, c'est des chiffres. C'est précis. On voit les courbes, on voit les évolutions, on voit qui écoute, on voit pourquoi, on voit quand ça écoute plus, quand ça écoute. Machin. Donc les DA aujourd'hui, ils font quoi ?
Du marketing.
Ils regardent. Donc les DA aujourd'hui, et c'est pas du tout rabaissant ce que je veux dire là, et puis c'est une généralité, bien évidemment. On peut pas considérer ça. Mais ça, en tout cas, ça tend vers le fait de surtout être des têtes chercheuses pour trouver les bons artistes et les ramener. Ça s'appelle du scouting, c'est des talent scouts. Et donc pour ça, et ben il faut maîtriser les outils de mesure et de voilà. Et évidemment quand même, parce que sinon ce serait que de l'algorithme, évidemment, être quelqu'un qui dans sa scolarité ou etc., ou dans sa passion, a tissé un réseau, et que quand il faut aller choper tel artiste, il connaît bidule, qui connaît machin, qui donne, et qu'il a accès à ça. Pas juste. C'est ça le petit plus. C'est d'être intégré dans tout ça et de ramener à la maison de disques
tel et tel projet,
au-delà du... Et la maison de disques, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, encore une fois, je caricature, mais elle achète de la musique qui est déjà faite. En général, quand on signe un projet, il y a déjà 5 clips dehors, il y a déjà 2 albums dehors, et les mecs n'ont pas besoin de vous pour faire de la musique. Mm-hmm. En général. Voilà. Donc, le métier a changé. Je suis sûr que tous les directeurs artistiques de ma génération, c'est-à-dire qui ont plus de 40 ans, dans les 4 dernières années, ont tous été licenciés. Je ne suis pas sûr qu'il en reste un seul dans les majors. Et je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal, parce que c'est plus des gens comme ça qu'il faut aujourd'hui. Je pense que les gens qui font la musique sont dans l'indépendance, voire dans des cellules artistiques pures. Et que c'est plus, finalement, de la réal et des... Et voilà, ou de la musique supervising dans le cinéma, ou des choses comme ça. Mmh. Mais je pense que les majors sont l'écho maintenant de projets qui savent éclore eux-mêmes. Et donc le talent des maisons de disques aujourd'hui, c'est d'aller les chercher au bon moment et d'exploser, de faire exploser ces projets.
Et tes affinités artistiques, ça serait plutôt quoi ?
Finalement, c'est...
Ou cet éclectisme
C'est un éclectisme, en fait, parce D'accord. que, bon, moi, j'ai mes trucs de base d'enfant, c'est du rock, okay, non, au sens large du terme, et de la chanson aussi, parce que les textes, pour moi, j'ai été percuté par plein d'auteurs, pas que français, d'ailleurs, mais vraiment, les textes, c'est quelque chose qui me bouleversait, me faire pleurer beaucoup. Donc, mes affinités, c'est ça, mais par contre, dans ce que j'ai fait en tant que DA et dans ce que je fais aujourd'hui, je suis ravi de me retrouver dans des zones d'inconfort et de dire « Merde, pourquoi ça marche ça ?» Parce qu'il va falloir que je le fasse. Et il faut comprendre. Mmh. Et on finit à chaque fois par comprendre et par... Donc moi, par exemple, je fais beaucoup de musique pour enfants aujourd'hui. C'est un truc qui me passionne parce que justement, on a le droit d'aller partout et voire même d'inventer des trucs, pourquoi pas. Donc, éclectisme, j'écoute de la musique classique.
Peut-être avant de laisser la parole à la salle, qu'est-ce que tu fais donc aujourd'hui ?
Oui, bonne question. Alors, je vends des... aujourd'hui, alors, j'ai réfléchi beaucoup à cette question, je me suis déjà posé moi-même, et puis mes parents m'ont posé, j'avais pas... aujourd'hui, je fais de la musique. Mais c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que je fais... Quelquefois, je travaille pour mes anciens employeurs, qui sont aussi des copains, et donc les majors, des labels indépendants, sur de la production exécutive et de la direction artistique, donc en gros ce que je faisais, mais en freelance.
Voilà.
Donc c'est très bien. Mais je le fais de moins en moins, d'abord parce qu'il y a de moins en moins besoin, et puis aussi parce que je fais de la musique, donc en tant que je suis compositeur, parce que j'étais à la base, je suis arrangeur, je suis beaucoup réalisateur, je réalise des albums. Pour Sony en ce moment, pour Universal aussi, pour des indépendants. Je produis des projets personnels, que j'ai envie de produire en tant que compositeur et réal. J'ai eu la chance de faire un peu de musique de cinéma, j'aimerais bien continuer. Pas mal de musique pour la télévision, voilà, je fais de la musique. Je la fais dans mon studio, avec ou sans musicien. En général, je joue de plein de trucs très mal, mais ça suffit. Ça peut être de l'orchestration classique, d'orchestre, ça peut être de l'électro, ça peut être c'est un peu difficile de dire ça, parce qu'on se dit que le mec sait finalement rien faire, mais j'ai tellement côtoyé, voilà, et aujourd'hui j'ai l'énergie d'un gamin de 20 ans, parce que pendant 25 ans, j'ai contribué à la musique des autres, avec beaucoup de passion et avec beaucoup de frustration, et aujourd'hui, la frustration me sert beaucoup, puisque j'explose et j'ai l'impression d'être payé pour jouer à la PlayStation, quoi, vraiment, alors que j'ai plus que 40 ans. Beaucoup plus que 40 ans.
Bon, sur cet aveu.
Mais je vois, je joue de la musique comme un gamin. J'adore.
Nous allons laisser la parole à la salle, si la salle a des choses à nous demander.
Bonjour la salle.
Vous êtes obligé maintenant. Ah.
Bonsoir. Déjà, bonsoir. Merci pour tous ces discours et tout.
J'étais sûr que tu allais poser la première question.
Parce que je me suis mis devant.
Ouais.
Juste en tant que jeune artiste, serait quel conseil pour arriver à justement percer dans la musique un jour ?
Reprends les études.
Quel moyen, par exemple, pour soit réussir en tant qu'indépendant ou soit se faire signer dans une maison de disques ou...
T'imagines la question que tu viens de poser. Et comment réussir en tant qu'artiste aujourd'hui ?
Ouais.
C'est ça. Hein. Si, il y a un truc à dire quand même. N'attends rien. N'attends personne. N'attends pas. Fais. Même si tu as l'impression que ça sert à rien ou que c'est dans le vide. Parce que des fois, on me dit, ouais, mais bon, je vais pas faire le truc dans le vide. Mais si, justement. Tout le temps. Tu fais. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est secondaire. Tu fais, tu es en train de te construire, tu fais. Et parce que en plus tout va très très vite aujourd'hui, donc tu fais, et quand tu es content, tu exposes, tu montres, tu fais, tu montres, tu donnes. Et il y a un moment donné où ça va se passer, c'est pas toi qui vas le décider. Ça va s'emparer de toi, ça va venir tout seul. Quelquefois ça vient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut surtout, je dis pas que c'est ta position, mais quelquefois on me met ça en tête, on me dit... comment je fais pour réussir ? Parce que bon, j'ai fait un EP, je vais pas en faire 36. Bah si, en fait. Ou fais autre chose, sinon.
36, c'est beaucoup.
Hein. 36, c'est beaucoup, ça peut faire long. Non, mais il faut pas être en situation de demande et d'attente. Parce que là, vous êtes mort. Vous n'êtes pas sexy. Ah, tu me signes ? Non. C'est quoi tes vues ? Surtout, c'est le piège dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi tes vues ? C'est quoi ta communauté ? Qui c'est qui te suit ? Qui c'est qui fait des feats sur ton projet, qui sait qui... Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est se construire ça. Avant, c'était des producteurs qui te faisaient ça. Maintenant, les artistes, soit on le met de manière négative, c'est genre sont abandonnés à leur triste sort et doivent se démerder, soit de manière positive, sont libres de faire... Parce que souvent, on dit « Ouais, mais vous, les majors, vous décidez de tout. » Ils décident de rien, vous faites. Et les majors, ils sont ni cons, ni méchants, ni gentils, ils regardent, et quand ils pensent que ils peuvent faire quelque chose pour toi, ou que tu peux, enfin, que ça va matcher, tout simplement. Je disais tout à l'heure, le Dernier Fantique, c'est un mariage. Signer dans une major qui veut de toi, c'est cool, mais si c'est pas le bon moment, s'ils savent pas bien le faire, ou si c'est pas un bon mariage, c'est un peu chiant pour eux, mais c'est horrible pour toi. Donc il faut que ce soit le bon moment pour tout le monde. Et aujourd'hui, le bon moment, c'est plus tard dans le développement d'un artiste. Eux, ils interviennent plus tard. Voilà, mais il faut se méfier des premiers intérêts. Genre, ah, c'est bien ton truc, viens, je te signe en édition ou machin. Plus vous êtes seul, finalement, plus vous êtes libre. Alors, libre sans thune et sans moyens, c'est... voilà, mais quand même. Un mariage, je vais sortir du truc du mariage, parce que sinon ma femme... un contrat, c'est aussi des responsabilités, c'est un engagement et c'est un emprisonnement qu'on souhaite et qui peut être très vertueux. Mais c'est quand même d'abord ça, c'est un engagement. Donc, comment je fais pour réussir dans la musique ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne t'aider à réussir dans la musique. Ça, c'est sûr que non. Il faut faire des trucs, te montrer, aller chercher les gens, aller chercher d'abord le public, parce que les autres, quand il y aura du public, ils viendront. Ouais. L'inverse n'est pas sûr. C'est bien ça, hein ? Ça va ? J'ai répondu ?
Ouais. Oui, moi je suis plutôt technologie et musique. Et il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment.
Oh là là, ouais.
Notamment dans tout ce qui est composition, musicale, image, il y a des nouveaux outils, des nouvelles merveilles. Je voulais savoir un peu ce que tu en pensais et comment ça va encore impacter le travail des musiciens, s'ils existent toujours.
C'est... Je n'ai pas de réponse. C'est une très bonne question. Je me la pose aussi. J'ai travaillé brièvement sur, avec des chercheurs qui développent l'intelligence artificielle. Pour des, alors, leur philosophie, c'est de créer des outils pour les musiciens. Et effectivement, il y a des trucs super. Il y a des trucs qui, dont je me sers, moi, dont je commence à me servir. Il y a des choses qui me font très peur. Mais peut-être qu'il ne faut pas avoir trop peur non plus, parce que d'abord, ça ne sert à rien. Il faut regarder ce qui se passe et essayer d'être vigilant. Mais j'ai personnellement les mêmes questions que toi. Est-ce que les gens vont se satisfaire, au-delà de la musique, de lire des romans écrits par une machine? Je ne sais pas. Est-ce que les gens vont se satisfaire d'artistes dont la voix est synthétisée, qui n'existe pas, dont les performances scéniques sont scénarisées et dont le son a été composé par une... Je ne sais pas. Il y a des gens qui disent non, on reviendra quand même, on a besoin d'humanité, j'espère qu'ils ont raison. On disait la même chose quand les chaînes de fast-food ont commencé, en disant les gens dans les années 70 auront marre un jour de manger de la merde. Je constate que non. Et surtout quand c'est moins cher. J'en suis là.
Ouais.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez dit que vous avez produit vos propres albums.
Oui.
Et je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler après. Vous avez dit que vous avez fait énormément d'erreurs.
Ouais.
Et du coup, quelles sont ces erreurs?
Tu peux les lister, s'il te plaît. Ouais. Merci.
Je vais faire un bouquin. Parce que, non, mais oui, tu as raison. Déjà, ce que je fais aujourd'hui, quand je fais des albums ou mes propres projets, ce n'est pas moi en tant qu'artiste. Mais là, je fais une comédie musicale, par exemple, où je fais des trucs, mais c'est pas moi en tant qu'artiste, Vincent, quoi. Ce que je faisais, par contre, au tout début. Alors, les erreurs, pour faire un raccourci, je vous ai dit que je les avais toutes faites là, j'en ai fait beaucoup aussi après, et il y en a plein. C'était des erreurs de naïveté, mais quelquefois, il y a des erreurs qu'il faut faire pour apprendre. Il fallait que je les fasse. Des erreurs, je sais pas ce que je pourrais te dire, il y a des erreurs déjà artistiques et techniques, voilà... Mais des erreurs de penser que ça allait suffire, de penser que je savais, de penser que c'était intelligent. On vient très, très loin en arrière, hein, mais que c'était intelligent d'enregistrer bourré pendant 4 jours sans dormir, par exemple. Ça faisait rock.
Ça, c'est une erreur.
Ouais, c'est une erreur. Bizarrement. Ouais. Ce qu'il faut, c'est quand même réécouter au repos, quoi. Il y a des éclairages différents. Je sais pas, enfin, des erreurs de production, de mal gérer aussi un budget, par rapport à ses envies, par rapport à un timing. Il y a plein de choses. Moi, quand j'écoute les disques que j'ai faits, et les personnes du métier qui les connaissent, parce qu'à un moment donné, ça a fuité au tout début, parce que j'étais fier, il se marre encore aujourd'hui. Voilà, des trucs de gamin. Je sais pas tellement quoi te dire précisément là, tout de suite. Mais des erreurs de jeunesse qu'il faut faire. Penser qu'enregistrer pendant 4 heures, on va chanter mieux à la fin, non? Par exemple, des trucs comme ça. Et puis sur les arrangements, sur t'enflammer sur un truc où tu dis que c'est super, se dire hey, « je veux un mélange dans ma chanson, je voudrais que ce soit un mélange de tel groupe et un mélange de tel machin, et ça va être super ». Ben non, en fait. Déjà, non, ça marche pas. Et puis t'es pas tel groupe et tel machin, faut être toi, quoi. Voilà, ce genre d'erreur-là, quoi.
Avant de prendre une autre question, je voulais t'en poser une, excusez-moi.
Mais tu es aussi dans le public, du
coup. Ah oui. Contractuellement, donc, tu interviens avec les artistes.
Aujourd'hui ?
Non, mais quand tu étais directeur artistique, tu intervenais ou tu négociais toi-même ou il y avait un...
En gros, il y a au niveau de la
quoi,
maison
de disque. La relation, est-ce que tu...
Alors, on avait d'un côté un artiste et son avocat. Mm-hmm. Toujours, et c'est
toujours
très souhaitable.
Un avocat.
Si vous êtes artiste, ouais, je fais signer pas un truc sans avocat, quoi. Jamais. Jamais. Et de l'autre côté, il y avait trois parties, en gros. Il y avait le patron du label qui décide, il y avait une équipe de juristes,
business affaires,
qui sont là pour indiquer, dire attention, si on fait ça, ouais, mais moi je te conseille de machin. Et il y avait moi effectivement qui parlait à l'artiste sur les grandes lignes, me disant bah tant de points, tant d'avance, ah ouais, mais sur le budget, enfin voilà, il y avait plusieurs niveaux
en gros,
de.
En gros, tu faisais le pré-contractuel.
Ouais, en gros, voilà. Okay. Sachant que le patron du label est la personne qui dit c'est comme ça qu'on va faire.
Avec les juristes.
Ouais, absolument. Ok. D'autres questions?
Bonjour, je voudrais savoir, en tant qu'artiste indépendant, c'est à quel moment on doit travailler avec une maison d'édition? Et je voulais savoir, on doit travailler aussi avec une maison d'édition avant d'avoir un label, ou après, ou même à quel moment? Et aussi, je voulais savoir si du coup, il faut les démarcher, ou il faut attendre de se faire opérer pour la maison d'édition?
Bah, c'est une très bonne question. Je vais faire une réponse un peu floue, parce qu'il n'y a pas de réponse à ça, mais je vais te dire pourquoi. En fait, il faut signer. D'abord, il n'y a pas de « il faut signer », c'est pas nécessaire. Mais je te conseille de signer avec un éditeur au moment où il y aura deux facteurs. Un, où tu en auras besoin, et deux, où c'est lui qui viendra te chercher. Je m'explique. Un éditeur, son travail... Donc on fait bien la différence entre éditeur et producteur. On est d'accord, hein ? C'est clair, hein ? C'est deux choses très différentes. Donc l'éditeur, lui, va gérer tes droits. Et son travail, ça va être de faire fructifier tes droits et de faire en sorte de te mettre dans des bonnes conditions, que ce soit financières, que ce soit de réseau, pour que tes œuvres génèrent des droits. Donc en participant à te faire signer chez un producteur, en participant à te faire écrire pour d'autres, de plein de manières. Et ce qu'il va faire, normalement, c'est pour te dire, je schématise bien évidemment, la moitié de tes droits sur tout le reste. Machin. Par contre, je vais te donner une avance en thune, et je vais tout faire pour faire décoller ta carrière, en tout cas tes œuvres. Donc, ça veut dire que si tu n'en as pas besoin, il va d'abord t'amener de la finance, quoi, ou du soutien matériel. Est-ce que tu en as besoin ou pas? Parce que toi, tu vas céder une grosse partie de tes droits, pour ne pas dire grosso modo schématiquement la moitié. Donc il faut que tu aies besoin de faire ça. Il ne faut pas que ce soit juste, ah bah comme ça, j'ai un éditeur. Il faut que tu dises, putain, j'ai besoin de ça, et puis j'ai besoin de quelqu'un dont je sais qu'il va être capable et qu'il va être volontaire de m'aider à aller. Parce que tu peux être éditeur en disant, hey, tu sais quoi, je te signe. Vas-y. Et puis toi aussi, je te signe. Je signe toute la salle. Je ne mets pas d'avance ou 500 balles, mais je vous signe. Les éditeurs, la plupart font leur travail, évidemment. Mais ça peut être ça. Je ne sais pas qui vous allez croiser. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous amène un service. Parce que c'est cher, finalement. Quand ils travaillent bien, c'est pas cher, mais il faut qu'ils amènent quelque chose. Et donc ça, c'est quand on a besoin. Et quand lui vient te chercher, toujours dans le sens de l'offre et la demande, bah, taper aux portes comme ça en disant « Vas-y, s'il te plaît, tu ne veux pas être mon éditeur ?» Tu n'es pas en position de force. Par contre, si on commence à voir ton travail sur le web et que sur scène et qu'il se passe des trucs, normalement, les éditeurs, ils ont aussi des directeurs artistiques qui checkent un peu. Et normalement, tu devrais avoir, si ce n'est un coup de fil, voilà, des mecs qui viennent, hey, cool, t'es un éditeur, parce que moi je peux faire ci, je peux faire ça, vas-y. Et là, c'est toi qui es en mode ouais, pourquoi pas. Donc le moment, moi, pour moi, c'est ça. C'est ce moment un peu charnière où t'es pas toi en demande et où tu dis ah ouais, ça peut me servir à quelque chose là, maintenant, là. C'est le bon moment pour moi d'être épaulé par ce genre de mec. Mais c'est difficile, enfin c'est dangereux, je pense, de si tu es dans la situation où tu es, entre guillemets, au tout début, c'est-à-dire chez toi, en train de faire des trucs, et que tu dis « Merde, comment je fais ?» Aller chercher ces gens-là, d'abord, c'est difficile, parce qu'eux, ils vont venir à partir du moment où ils vont sentir que ton travail, eux, ils vont pouvoir le transformer et l'amener à quelque chose. Donc je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est vous êtes artiste, vous êtes créateur, vous avez les moyens de créer du son, vous avez les moyens de le diffuser, vous avez les moyens d'aller voir des gens, constituer votre communauté, et c'est cette communauté, sans le vouloir, qui va faire que les gens, l'industrie va s'intéresser à vous, et là vous serez en position de force, il ne faut pas tout voir en rapport de force, mais quand même à un moment donné, il y a quand même signé un contrat, et tu n'auras pas les mêmes chiffres si tu as, tu vois... Si t'as je sais pas combien de millions, etc., que si t'as 50 000 vues.
Non, des millions déjà.
Des millions, des millions.
Tes exemples sont éloquents. D'autres questions ?
Ouais.
Bonsoir.
Ouais. Bonsoir, pardon. Je sais pas qui
parle. C'est là-bas.
Simple question. Durant votre passage en maison de disques, est-ce que quand vous étiez avec des artistes, vous les formiez à tout ce qui est droit voisin, éditeur, le rôle d'un producteur, qu'est-ce que c'est un code IRC, etc. ou pas du tout ?
Alors non, parce que sinon ils auraient su et ils nous auraient... non, c'était pas du tout mon rôle. Pas du tout mon rôle.
Est-ce que vous pensez justement qu'il y a un manque de formation dans l'industrie musicale pour les artistes ?
Bah moi j'ai l'impression que par rapport à l'époque dont je vous parlais où j'ai commencé, bon, c'est un peu facile de dire ça aujourd'hui, mais s'il y avait eu à l'époque déjà l'IRMA, déjà le FER, déjà maintenant le CNM, déjà, etc., bah, peut-être que voilà, tout ce dont je vous parlais, tous ces fantasmes de maisons de disques, de je sais pas quoi, de trucs, bah, ça aurait été, peut-être été plus clair, et peut-être que j'aurais su qui appeler, ou voilà, peut-être plus quoi faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des outils, aujourd'hui. Alors, moi, pardon ?
Alors, maisons de disques, ou alors
Ah, mais les maisons de disques, c'est pas leur rôle de faire ça. Moi, je parle des institutions, je parle du ministère de la Culture, et je parle de, effectivement, là, vous êtes ici réunis à la Manufacture de la Chanson. Je pense à...
Bah, le CNM.
Le CNM, ouais, que j'ai cité tout à l'heure. Et d'abord lui qui rassemble aujourd'hui toutes ces... Alors déjà, il y a des aides qui des fois sont quand même substantielles et qui peuvent permettre de débloquer des situations. Et puis il y a de la formation. Et puis il y a de l'information. Moi, j'y interviens au CNM de temps en temps, avec plaisir. Et donc, il y a ce truc-là. Mais je pense que un artiste doit être... Moi, je crois pas vraiment... je vais peut-être me faire des ennemis dans certains, mais la formation d'artiste, tout ce qui est fait dans ce cadre-là est très utile, mais je pense que ça devrait pas s'appeler comme ça. On forme pas un artiste, depuis quand ? Surtout pas. Un artiste, ça doit pas ressembler à un truc qui a déjà été fait, justement. Donc pas de la formation, mais de l'accompagnement, ça, oui, il y en a, je trouve. Il y en a. Il y a ça, d'une part, c'est-à-dire vous informer, d'information d'artiste, du soutien d'artiste, tout ce que vous voulez, il y a ça, et il y a derrière ce que vous devez apprendre, et que à mon époque ça n'existait pas tout simplement, mais vous devez apprendre à communiquer. Aujourd'hui, être artiste, ça ne veut pas dire faire une chanson avec une guitare et des paroles. Ça veut dire quasiment produire un album ou trouver les bonnes personnes pour le faire, pour s'entourer. Ça veut dire surtout communiquer. Vous devez avoir votre image, vous devez avoir votre personnage, vous devez avoir un discours, une histoire, tout ce qu'intégrait avant les services marketing, etc. C'est vous déjà qui devez le faire. Je parlais de naïveté quand on faisait des chansons, mais là, ce que vous devez apprendre, vous, c'est à vous construire totalement. Parce que vous avez les outils pour ça. Vous avez aussi les outils pour vous planter, pour le faire mal. C'est le revers de la médaille. Mais vous pouvez, et vous devez, tout faire. Vous devez arriver avec une proposition, déjà. Pour parler à votre public d'abord, et pour intéresser des partenaires. Vous devez arriver avec tout. Vous devez avoir sur scène, ça doit défoncer. Votre visuel, quel qu'il soit soigné ou exprès, pas du tout, ou je ne sais pas, mais vos atouts, vos forces, et surtout, parce que le maître mot, c'est ça, le secret de la réussite, entre guillemets, c'est la singularité. C'est le talent, le talent n'existe pas, mais c'est par le travail arriver à quelque chose qui potentiellement intéresse d'autres gens que vous-même, déjà, et c'est la singularité. Tous les gros projets qui ont marché, mais depuis Mozart et avant certainement, c'est toujours des trucs bizarres. Quand Stromae arrive, ça ressemble à quoi Stromae pour vous ? Comment on décrit ça ? Quand Orelsan arrive avec un flow de Roubaix ou je sais pas d'où, avec blanc et pas de possible, qui mise là-dessus ? Bah justement, c'est la singularité, personne fait ça. Et en plus c'est hyper bien, et en plus ça parle à plein de gens. C'est la singularité, il n'y a que ça qui... Il n'y a que ça qui vous fait émerger, encore plus aujourd'hui, où tout est accessible tout le temps. Vous écoutez de la musique en tant qu'auditeur, vous allez sur YouTube ou ce que vous voulez, il y en a partout, tout le temps. Donc qu'est-ce qui va émerger ? Bah, il y a les algorithmes qui vont vous proposer des choses, puis il y a vous, et tout d'un coup, vous allez entendre un truc, c'est bizarre, vous n'êtes pas sûr de savoir si ça vous plaît ou pas, et puis au bout de 4 écoutes, en fait, vous trouvez ça énorme. C'est ça que vous proposez en tant qu'artiste aux gens, c'est vous le plus singulièrement possible.
Une question ?
Alors, il n'y a pas de question de Twitch.
Cool.
Juste pour répondre au jeune homme, on a un excellent stage à la Manufacture Chanson qui s'appelle Diffuser et promouvoir son projet. Prochaine session au mois d'avril, tu sauras tout sur les droits voisins en sortant. Et maintenant, je reviens à nos moutons et je pose ma question perso. La question de l'égalité femmes-hommes se pose de plus en plus dans le milieu artistique, dans le monde artistique.
Ouais.
Et toi, ça a changé des choses dans ta manière de travailler ? Est-ce que tu vas chercher plus de musiciennes que de musiciens si tu accompagnes un projet, ou ça n'a rien changé ?
Surtout pas.
Surtout pas ?
Bah non, surtout pas, non. Non, je vais chercher des gens à qui je kiffe de travailler et qui sont les bonnes personnes pour faire telle ou telle chose. Et qu'ils soient hommes, femmes, trans, je m'en fous. Enfin, c'est pas du tout une question que je me pose. Jamais. Jamais. Je me suis jamais posé cette question. Je pense évidemment qu'il faut que la recherche des possibles soit sans filtre, évidemment. Mais du coup, sans filtre. Pas plus de femmes que d'hommes, ni l'inverse. Je me pose pas du tout cette question. Ni noir, ni...
Ni bleu.
Ni bleu. Et j'ai travaillé avec, évidemment, beaucoup d'artistes de tout sexe et de toute sensibilité, de toute... Non, je me suis jamais posé cette question.
Et d'ailleurs, tu as produit plus de chanteuses ou plus de chanteurs ? Question.
J'en ai aucune idée. Je ne me suis jamais posé la question.
C'est le point.
Mais beaucoup des deux.
Oui, on a compris. T'aimes mieux travailler, enfin, je sais pas, t'as des affinités, tu travailles mieux avec les chanteurs ou les chanteuses ou...
Non, honnêtement,
pour toi, c'était...
ils sont tous cinglés pareil. non, mais c'est comme, est-ce que vous écoutez plus de, non, de femmes ou plus d'hommes
que, dans les exemples que tu nous as donnés jusqu'à maintenant, il y a plus de chanteurs.
Ouais, mais je pourrais vous citer...
Comme ça, hein.
Ouais. Peut-être.
Monsieur Tristan qui a amené cette...
Là, nous avons un barbu qui veut poser une question. Est-ce qu'on peut...
Oui, absolument.
Est-ce qu'il peut s'exprimer ?
Les barbus peuvent s'exprimer aussi.
Merci de cette présentation. Bonsoir. Comment fait-on pour convaincre un ou une artiste qui n'a pas d'argent de prendre un réalisateur ?
Comment on fait pour le convaincre ?
Oui.
Bah, venez me voir.
Comment ?
Ah, qui n'a pas d'argent, pardon.
Ah, oui. Qui n'a pas d'argent.
J'ai pas très bien compris. Comment faire pour convaincre un artiste qui n'a pas d'argent de prendre un réalisateur ?
C'est ça.
Je suis désolé, mais je capte pas. C'est-à-dire que de trouver un réalisateur qui va travailler avec lui sans argent, sans être payé, tu veux dire ?
Non, plutôt de dépenser aussi de l'argent.
Ah. Ah, d'accord, je comprends mieux. Qui n'a pas beaucoup d'argent.
Non, réalisateur.
D'accord.
Est-ce que c'est un budget prioritaire ?
Vraiment, ça dépend des projets. Un réalisateur, ce n'est pas un passage obligé. Après, ça dépend de beaucoup de quel genre de musique on parle, parce que le mot réalisateur ne veut pas dire exactement la même chose selon... Quand on est sur de l'urbain pur, on dirait que c'est plutôt ce serait quasiment le beatmaker, en fait, le réal, grosso modo. Donc, quand on est sur de l'urbain, soit on est soi-même beatmaker, soit on en a besoin, effectivement, d'un son. Après, sur de la pop, sur de la chanson, etc., y a des artistes qui n'en ont pas besoin. C'est à l'artiste de sentir son besoin ou pas. Tant qu'il est indépendant, le seul patron du projet, c'est lui, c'est l'artiste. Donc c'est à lui de se dire, j'aimerais bien que machin, il vienne et il m'aide à faire ce truc parce que j'ai envie de sa vision, j'ai envie de prendre du recul, j'ai envie que quelqu'un le fasse, j'ai envie de prendre du recul, j'ai plus envie d'être tout seul sur mon ordi, moi, ça me fait du bien, j'ai besoin, combien ça coûte, et voilà, c'est à lui en fait de prendre, il n'y a pas à le convaincre. Alors sauf si on est producteur par exemple et qu'on se dit, le mec il va pas y arriver, ça va pas être bien. Et là, ma foi, pour le convaincre, moi je l'invite au resto. Et chacun ses techniques, on explique, on dit les vrais trucs. Je crois que j'ai essayé, alors tout en sachant qu'il y a quand même mille façons de dire la vérité, j'ai toujours essayé de dire la vérité, par flemme, parce que c'est plus simple, aux artistes que j'essayais de convaincre de telle ou telle chose, de dire la vérité, quoi. Il n'y a pas de mensonge. On dit ce qu'on pense. On pense que ça va être compliqué parce qu'il y a trop de... Je sais pas. Il porte le projet tout seul depuis trop longtemps. Ça manque d'air. Ça manque peut-être d'autres visions. Ce serait bien de bosser avec Bidule. On explique, tout simplement. On explique. Mais je sais pas si toi, tu parles de toi en tant qu'artiste ou tu te dis, tiens, est-ce que je bosse avec Aral ou pas ? C'est ça, ta question ?
Non, c'est plutôt... Non, c'est plutôt dans l'autre sens.
Toi, en tant que réalisateur,
c'est ça, ouais.
D'accord. Il faut montrer. Il faut dire, regarde, donne-moi cette chanson-là, je te prends rien, je te fais écouter, laisse-moi une semaine, je te fais écouter, tu prends pas, on travaille ensemble, on travaille pas ensemble, mais laisse-moi montrer ce que moi je ferais. Tu prends le risque ? Mais tu peux pas faire mieux. Moi, ça m'est arrivé de faire ça, pas forcément en tant que réal pur, mais en tant que pour essayer de convaincre d'un avis, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Ou d'un moment, tu sais quoi ? Je fais, t'écoutes, on voit. Voilà, tu prends ton risque. Moi, je ferai ça.
Une question devant.
Bonsoir, juste là. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé d'emprisonnement vertueux. En désignant le mariage entre le label et l'artiste. J'aimerais savoir comment réagir quand cet emprisonnement se transforme en empoisonnement de façon à ne pas froisser les personnes et qu'il y ait la cassure la moins vénère possible.
C'est une question qu'on se pose sur les labels ou sur tout engagement. Et effectivement, le but, c'est de... tu poses cette question en tant qu'artiste, peut-être, j'imagine. Bon, en tant qu'artiste, c'est de faire en sorte que cette séparation t'abîme le moins possible, et donc essayer de faire en sorte d'être le plus à l'amiable possible. Alors, après, il y a des trucs de négo, ça dépend tellement des situations, tu vois. Est-ce que c'est l'artiste qui veut partir ? Est-ce que c'est une situation impossible pour tout le monde et que tout le monde dit il faut qu'on trouve une manière de... Est-ce qu'on se parle encore ? Est-ce que ça dépend un petit peu de tout ça. Ce qu'il y a d'à peu près certain, c'est que sur un contrat d'artiste, le label gardera la propriété des masters qu'ils ont financés. Ça, a priori, c'est sûr, à moins que tu les rachètes et qu'ils soient disposés à ça. Ça, tout dépend de ton contrat, mais faire sauter une clause d'exclusivité, par exemple, s'ils ont encore deux albums que tu es censé faire, je vois pas tellement l'intérêt pour eux de te garder là-dessus, sachant que tu les feras pas. Et que donc, ils vont faire quoi ? Enfin, je pense qu'il faut faire... faut discuter, quoi. Il faut trouver une solution à l'amiable qui te rend ta liberté. C'est surtout ça, l'enjeu. Après, le côté financier, si c'est une histoire qui s'arrête, tu peux imaginer rebondir derrière. Mais ce qu'il faut, c'est partir libre. Et puis surtout, quitte à ce que tu partes sans argent, que ça ne te coûte rien, en tout cas. Toi, t'es artiste. Donc, tu as donné du travail... ils veulent plus de toi ou tu veux plus d'eux, ok, ils vont garder les masters, ok, mais faut trouver... C'est une situation d'impasse totale, ce truc de devoir des albums à un label qui veut plus de toi ou dont tu veux plus, c'est une impasse. Donc faut que tout le monde soit raisonnable. Si tu as les moyens, je te conseille quand même toujours de prendre un avocat, au moins de consulter un avocat, même si c'est pas lui qui leur parle forcément, sans être agressif, mais d'avoir un conseil juridique. C'est important, je pense. Pas faire de petites conneries. Mais c'est surtout de dialoguer, si c'est possible, si c'est pas la guerre.
Mais les situations de rupture, c'est plus souvent les producteurs vis-à-vis des artistes que les artistes vis-à-vis des producteurs, non ?
Oui, mais du côté du producteur, en général, contractuellement, c'est déjà bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont des options.
Oui, oui.
Donc ils peuvent arrêter à tout
absolument.
Moment. Mais en revanche, l'artiste qui veut partir, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, oui. Et donc c'est plus rare.
Non.
Ah bon ?
Ça arrive.
Oui, non, mais...
Enfin, ça arrive, surtout sur des...
La rupture, enfin, moi, j'ai...
Quand on tombe sur des labels indépendants, mais surtout... il y a des gens qui ne sont pas tous très, très honnêtes. Et donc, ça arrive. En général, les gens sont contents d'être en major, même si ça se passe mal, ils veulent quand même faire l'album d'après. Mais quelquefois, ça peut mal se passer humainement, même. Quand on parle à une petite équipe de 3 personnes... Si ça passe plus, ça passe plus, quoi. Ça arrive, je sais pas si c'est très souvent.
D'autres questions, peut-être ? Voilà.
Bonsoir. J'ai une petite question. Quand tu étais directeur artistique, est-ce que ça t'est arrivé de malgré un coup de cœur que tu avais pu avoir pour un ou une artiste, de renoncer à signer cette personne parce que tu penses que ça allait pas marcher ? Ou est-ce que tu as toujours écouté tes envies et tes coups de cœur ?
Alors, ça m'est arrivé très souvent. D'abord parce que je ne décidais pas seul. Moi, j'apportais des projets à un label, avec un directeur, avec des gens qui y travaillent. Et donc, c'était pas, je ne prenais pas la décision tout seul d'engager le label sur... c'est un patron de label qui prend cette décision. Donc... déjà, il y a des trucs que j'ai voulu signer où on m'a dit où ça ne s'est pas fait. Et il y a des choses où je me suis vachement intéressé et où je n'ai pas été au bout, parce que je me disais tout simplement que ce n'était pas une bonne idée pour tout le monde, pour l'artiste, pour le label. Parce que ce n'était pas le bon label, pas le bon artiste, pas le bon moment. Ou de temps en temps, parce qu'on avait déjà des artistes comparables, ou si ce n'est comparables, qui allaient parler au même public, via les mêmes médias, avec le même discours, avec les mêmes arguments, et avec un timing quasiment pareil. Il fallait, enfin, on m'a appris, effectivement, c'est frustrant, mais que ce n'était pas forcément une bonne chose à faire, ni pour le label, ni pour l'artiste. Donc effectivement, dans ce cadre-là, ça m'est arrivé relativement souvent de pas aller au bout, alors que je me disais, merde, j'aurais bien fait.
Et tu as été chercher les artistes aussi dans les autres maisons en fin de contrat, par exemple ?
Oui, mais pas de manière très sneaky comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon, on sait tous les contrats qui s'arrêtent, on sait tous pourquoi, etc. Et les artistes, quand ils sont en fin de contrat, bah, font le tour un petit peu des autres. Donc oui, j'ai déjà signé des artistes qui n'étaient pas au début de leur carrière. D'accord. Ouais. Je me rappelle avoir signé le retour des Innocents, si vous vous rappelez des Innocents, ouais, dont j'avais fait la première partie avec les genoux qui tremblent 15 ans avant. C'était assez drôle de leur dire « Ouais, il est pas mal ton refrain, mais peut-être... » C'est bizarre.
Et là, tu étais les chercher en fin de contrat
Bah, j'étais les chercher, tout le monde savait qu'ils étaient là, et ouais, on s'est dit « Ah, on le fait, quoi. » Effectivement, ouais. Il y a eu plusieurs trucs comme ça. Hein. J'ai eu la chance de signer Guillaume Aldebert, ouais, qui est un chanteur pour le jeune public. Enfin, qui est devenu un chanteur pour le jeune public.
Donc, tu pourrais t'occuper maintenant, alors.
Ben, on travaille ensemble. Enfin, il m'a fait l'amitié d'être présent sur la comédie musicale que je suis en train d'écrire. Je vous dis ça parce que bah, il était d'abord chez Warner, en fait, donc une maison de disques concurrente, et puis qu'il avait quitté. Et c'est son manager qui m'a appelé. On se connaissait pas trop. Et il m'a dit, c'est marrant parce qu'on est en train de faire nous-mêmes le deuxième album tout seul, et on se rend compte que sur 12 invités, 12 featuring, il y en a 7 que t'as signé toi. Donc on serait peut-être marrant que tu fasses... Et j'ai appelé mon boss à l'époque, Laurent Rossi, qui a dit, ouais, on veut. On a signé et on a fait 5 albums ensemble. Et il fait des tournées de Zénith. Enfin, oui, c'est monstrueux, Aldebert.
D'autres questions?
Ouais.
Ah, Jean...
J'avais une question sur les avances. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière simple qu'est-ce qu'une avance, et est-ce que dans le cas où un artiste fait un projet, il reçoit une avance pour plusieurs albums, et par exemple il n'arrive pas à finaliser les albums, est-ce qu'il se retrouve par exemple dans un cas d'endettement, ou est-ce que les avances elles sont recouvrables ou pas du tout?
Alors, en général, dans les contrats français, les avances sont recoupables. Ça s'appelle
Et non remboursables.
Voilà. Donc ça veut dire, normalement, quand on te donne une avance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se rembourser. Mais c'est le producteur, si on parle d'un producteur, mais c'est un peu pareil en édition, il prend un risque, lui, en te donnant cette avance. C'est pas toi qui prends le risque. C'est-à-dire que tant que tes royalties, en général dans un contrat, tu vas avoir des royalties, c'est une rémunération proportionnelle, plus tu vends de disques ou plus ça se diffuse, tu as un pourcentage en fait sur, pour résumer, le chiffre d'affaires en gros, le prix de gros hors taxes en général. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as X%. Et à côté de ça, concernant cette rémunération-là, on te donne une avance de ça. Donc on va te donner, je dis n'importe quoi, 10 000 balles, et tu les prends, ils sont à toi, et c'est à toi, c'est tout. Point final. Mais tant que tes royalties n'ont pas remboursé ces 10 000 balles, tu touches rien de plus. Et une fois que tes royalties ont remboursé 10 000 balles, tu touches tes royalties en plus. Voilà, c'est une avance sur royalties. Mais il n'y a pas de cas dans les contrats normaux français, et donc où c'est de l'avance recoupable, il n'y a pas de cas où on dit, je t'avais filé une avance, t'as rien vendu, alors t'as rien vendu, tu me rembourses. Ça n'existe pas. Non. Après, s'il y a une avance et que t'as rien produit, rien livré du tout, faut regarder les contrats. Parce que là, le producteur, il prend son risque, mais il prend son risque de producteur. C'est-à-dire que s'il vend pas ton projet, c'est son risque. Mais si tu lui fais pas de projet et qu'il t'a donné une avance, là, faut voir. Tu vois ce que je veux dire, là, la nuance? Voilà.
Et il peut refuser un projet que tu lui apporterais?
En tant qu'artiste, tu veux dire? C'est-à-dire
que ton producteur te donne une avance. Alors, toi, tu lui apportes un projet, mais ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il entendait.
C'est une bonne question. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, encore une fois, c'est du contrat. Ce qui est prévu dans les contrats, moi je ne suis pas juriste, mais j'en ai vu passer pas mal, c'est un truc un peu bizarre, c'est une situation que j'ai vécue une fois.
C'est pas très agréable.
Ouais. Ah non, c'est pas très agréable. Parce que le jeu, c'est de dire, en gros, il y a un système juridique qui dit qu'il faut refuser 5 maquettes, machin, par lettre commandée, de trucs. Une fois, j'ai vu ça, en 25 ans. Mm-hmm. Donc voilà, ça dépend de votre contrat. C'est stipulé normalement dedans. Mais arriver à ces extrêmes-là, c'est horrible, et ça veut dire de toute façon que ça se fera pas, parce que ça veut dire que vous êtes déjà en guerre avec votre label, quoi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une question. Comment vous pensez maintenant, pour un artiste, en entrant dans une major, à quel point doit-il s'attendre à être malléable pour différentes décisions artistiques ? Parce que j'imagine que la plupart des artistes sont assez têtus dans ce qu'ils veulent faire. À quel point ils peuvent s'attendre à avoir... des gens qui leur disent non, ça par exemple tu peux pas le sortir, ou alors là il faut absolument changer le son du synthé ou quelque chose comme ça.
À quel point il faut être malléable? Il faut pas être trop malléable. D'abord vous êtes artiste, donc c'est quand même vous qui avez un truc à dire à la base. Le sujet de tout ça, c'est votre projet. Donc si vous êtes en situation dans un label, etc., ça veut dire dans le meilleur des cas que ce label s'intéresse à ce que vous faites. Donc a priori il n'y a pas de raison d'arriver à ce genre de conflit là, sauf quand une équipe change complètement et que vous vous retrouvez avec des gens qui ne vous ont pas du tout signé et que, bon, ça arrive aussi. Il ne faut pas être... je ne dirais pas le mot malléable. Je pense qu'il faut le plus possible savoir ce que vous voulez, mais tellement savoir ce que vous voulez que vous êtes capable d'écouter d'autres avis. En fait, c'est ça, le truc. Parce que quand on ne sait pas trop ce qu'on veut, on a peur. Et quand des gens s'insèrent dans votre réflexion artistique, disent, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est la panique, parce qu'on ne sait pas, en fait. Et on se sent complètement agressé. C'est là que c'est compliqué aussi pour un DA de parler à un artiste qui ne sait pas trop ce qu'il veut. C'est plus facile pour moi de parler à quelqu'un de têtu, même si je veux le convaincre d'autre chose. Et puis d'abord, DA, tu sais quoi, t'es rien, t'es un mec qui écoute de la musique, t'es rien de plus que ça. Donc peut-être que tu te plantes, moi j'ai dit des conneries, hein, pas mal. Donc il faut savoir qu'en tant que DA tu peux dire des conneries, et qu'en tant qu'artiste peut-être que le regard extérieur t'amène quelque chose. Donc il faut réussir à être ouvert à ça, mais pas perméable, c'est-à-dire qu'enfin pas faut pas que ça te secoue, quoi. Voilà, il faut que ça puisse, il faut que tu puisses choisir de te dire tiens, peut-être qu'il a pas tort, je vais essayer. Il faut avoir cette capacité là sinon t'es tout seul. Des fois c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir, après ça dépend des gens que t'as autour de toi. Tu peux aussi avoir des gens qui te disent n'importe quoi et qui te... ça arrive. Qui te font perdre confiance. Mais tu peux avoir des gens qui sont juste un miroir. Moi, je pense que l'échange artistique avec un DA, il faut pas écouter un mec qui te dit... Il faut pas écouter la phrase qui te dit genre, ah, tu devrais faire comme si, comme une vérité, mais comme un miroir. Voir ce que provoque ta proposition artistique chez ce mec-là, dont le métier est d'essayer quand même, d'avoir réfléchi et tout. S'il n'aime pas, pourquoi? Il faut que ça te dérange un peu. Il faut que ce soit titillant pour toi de dire putain, mais je. Mais faut pas se sentir heurté par des mecs qui disent ouais. Enfin, j'ai entendu des anecdotes, et puis j'ai entendu un DA qui dit ouais, plus de basse. Moi, il n'y avait pas de basse. Donc, faut aussi avoir beaucoup de distance.
Ah, c'est le vocabulaire des directeurs artistiques en séance.
Ouais, il y a des trucs. Oui, évidemment. Bien sûr. Votre directeur artistique, c'est un mec, quoi. Donc il dit aussi des fois n'importe quoi, assez souvent même. Donc faut le désacraliser complètement, mais pas forcément le prendre pour un con de base, parce que c'est un partenaire qui est censé avoir quand même une expérience et une oreille, à aucun moment la vérité, mais c'est aussi le lien artistique avec ton label, qui lui, va sortir les rames pour aller vendre tes disques. Donc c'est quand même ton partenaire, quoi. Donc tout le monde a intérêt à bien s'entendre. Après, moi, j'ai convaincu beaucoup de gens de beaucoup de trucs, et puis des fois, on m'a dit, des fois, j'ai pas réussi, quoi. Et c'est pas grave. L'important, juste à la fin, c'est que ce soit bien. Je me rappelle d'un artiste, j'avais pour mission, parce que tout le label était là-dessus, et moi aussi, de lui faire changer complètement son équipe pour un troisième album. Donc pendant tout un déjeuner, je lui ai expliqué à la cool, hein, c'est un artiste qui existait déjà assez fort, donc il y avait un truc un peu, puis c'était une forte tête. Donc pendant tout le déjeuner, j'ai dit, tu comprends, c'est toi qui fais les chansons, c'est toi qui écris, c'est toi qui machin. Si on change pas de réalisateur, de musicien, d'endroit où on enregistre, de machin, ton troisième album, voilà, on va vers la même chose, et c'est très important aujourd'hui.
De se renouveler.
De se renouveler, de se mettre en inconfort. Et à la fin du repas, il dit, je t'ai bien écouté et je pense que tu as carrément raison. Mais on ne va pas le faire. On ne l'a pas fait. On l'a fait l'album d'après.
Mais ça
marchait. Ah oui, ça marchait. Donc, en fait, on l'a quand même fait, cet album-là, mais en loose day. J'ai fait un truc très politique. Mais bon, tout ça, c'est du folklore. Après, il y a les chansons, et puis il y a le mec qui va les défendre sur scène. C'est ça, en vrai, qui marche. Mais tout ça pour dire que, voilà, c'est mieux d'avoir un label, de considérer son label comme un, voilà, un partenaire, et pas comme une menace à chaque fois qu'il y a un avis contraire à ce que tu veux. Je pense qu'il faut savoir écouter. Mais pas non plus, faut surtout savoir être solide, être assez solide pour pouvoir te remettre en cause en fonction de ce qu'ils disent.
On ne travaille pas contre, on travaille toujours avec. C'est la règle des DA.
On est quasi sur la fin, là. Il reste deux questions, donc deux questions rapides. Ouais.
Rebonsoir. Est-ce que, en tant que directeur artistique, on peut toucher des parts sur l'édition d'un artiste ou alors sur un pourcentage de la composition ou sur les droits d'auteur ?
Alors, si ton rôle est d'être directeur artistique et, entre guillemets, que ça, non. Après, l'édition, c'est la foire. Il y a des managers qui prennent des droits d'édition, tout le monde prend des droits d'édition. Théoriquement, c'est totalement incongru. Enfin, c'est pas fait pour ça. C'est pas ça que ça rémunère. D'abord, il y a les droits d'auteur et de compositeur. En France, normalement, c'est inaliénable. Si quelqu'un a composé avec toi, co-composé, co-écrit, oui. Sinon, à aucun instant, à mon avis, aucun instant. Après, sur l'autre partie des droits éditoriaux qui sont réservés en général à l'éditeur lui-même, bah, si quelqu'un porte une action d'éditeur ou de co-éditeur, pourquoi pas ? Oui, mais pas rentrer dans la composition, ça jamais, quoi. À mon avis.
Bonsoir. J'avais une question. Bonsoir. En tant que directeur artistique, comment est-ce que vous arrivez, je suppose que ça vous est déjà arrivé, mais comment est-ce que vous dissociez ce qui ne vous plaît pas à vous de ce qui peut fonctionner, en fait ? Sur quoi est-ce que vous vous basez et est-ce que ça vous est arrivé fréquemment ?
Ouais, vachement. C'est une bonne question. Vous êtes pas... Enfin, encore une fois, quand vous travaillez en major, donc on parle d'un spectre musical de musique actuelle, mais quand même assez large, votre mission n'est pas de faire exclusivement des choses qui vous plaisent à titre personnel. Donc moi, je suis sorti assez vite de ça, mais tout en y re-rentrant très vite, en considérant que j'aime bien ce jeu que j'ai fait beaucoup sur les choses qui ne te touchent pas, d'essayer de comprendre pourquoi ça touche d'autres gens. Parce que ça, forcément, il y a des styles de musique qui, moi, spontanément, je ne vais pas dessus, quoi. Mais dans 100% des cas où je m'y suis intéressé, ça peut prendre un certain temps, et on repart peut-être par un prisme de musicien un peu, ou de compositeur, de dire, mais voilà, pourquoi les gens, pourquoi ça remplit des salles, et pourquoi ça ne me parle pas ? Et donc, en comprenant, je me prends au jeu, en général, et je finis par kiffer. Et voilà. Et donc, du coup, essayer de comprendre cette espèce de grammaire... Si on aime le rap français aujourd'hui, par exemple, c'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas du tout les mêmes leviers que d'autres musiques. À un moment donné, j'ai bossé avec des groupes de reggae même. C'était pas du tout ma culture. Mais j'ai été très 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 touché, très très fort. Et puis après, je suis passé à autre chose. Après, je sais plus comment t'as formulé ta question exactement, mais comment savoir ce qui est bien ou pas? Moi, j'ai jamais su. Hein. C'est très très grave, comme le mec qui se met dans la position de savoir ce qui est bien ou pas. Moi, j'en sais rien. Je sais ce qui me touche ou pas, effectivement. Et quelquefois, j'ai été touché même spontanément, parce que là, je te parle d'une démarche à faire, essayer de comprendre pourquoi ça marche et tout. Mais des fois, j'ai été cueilli par des trucs qui n'étaient pas du tout mon... Et où j'ai été séché total. Et là, tu te dis, si à moi, ça me fait ça... C'est très jouissif comme situation de se faire surprendre comme ça. Mais il y a quand même ce petit effort des fois, et ça se fait, et c'est assez, c'est du plaisir aussi, de se dire, mais merde, pourquoi aujourd'hui, on me demande des musiques quelquefois très différentes pour la télé, notamment, je veux un truc, techno, hardcore et tout. Et j'écoute pendant une journée, et tu fais, ah ouais. Ah, ça, c'est malin. Ah, ça, putain. Ah, ils font comme ça. Ah, ouais, fais voir. Et là, tu commences à rentrer dans cette démarche et tu, à la fin de. Ah
bon, c'est sur cette gestuelle magnifique que nous allons terminer cette session. Tristan va nous annoncer la prochaine rencontre.
Oui, alors la prochaine rencontre, c'est le 12 mars avec Adriana Rosseo, qui est manageuse et qui s'occupe de la programmation pour Les Femmes Sans Mail.
D'accord, donc un festival.
Ah oui, à pas arrêter à 50% avec les hommes.
Absolument. Ben merci, et on peut féliciter.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir de te revoir.
Vous venez d'écouter les Rencontres Pro 2.0, proposées par la Manufacture Chanson, en partenariat avec le Centre National de la Musique, en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Bertrand Mougin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. À bientôt.